Les grands feuilletons de France Culture.
Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat.
Ah, je peux dire, monsieur Rouletabille, que vous menez superbement le jeu. Mais puis-je ajouter un conseil?
Je vous en prie, maître.
Je connais le bâtonnier Rocou, c'est un excellent homme, mais il va finir par se fâcher. Vous en êtes à votre troisième suspension d'audience. Il y a de quoi lasser les plus patients.
Ne me dites pas que le prince du barreau de Paris n'a pas deviné mes intentions.
Si, bien sûr. Faire traîner les choses en longueur.
Voilà, gagner du temps. Gagner du temps à n'importe quel prix. Je vais vous dire, j'ai engagé un duel très dangereux avec l'assassin et nous évoluons, lui et moi, avec des marges de sécurité infinitésimales. Et je ne peux pas faire autrement.
Maître, l'audience va reprendre. Oui. Il nous faut regagner nos places. Beau travail, monsieur Rouletabille. Vous avez un talent d'orateur que bien de nos confrères vous envieraient.
Maître S, méfiez-vous. Je ne suis pas modeste et vous me flattez.
Croyez bien que j'apprécie.
Entrons, je vous en prie.
Messieurs, la cour.
L'audience est reprise. Monsieur Rouletabille.
À vos ordres, monsieur le président.
Voulez-vous revenir à la barre des témoins?
Voilà, monsieur le président.
J'ai relevé que vous deveniez un expert pour susciter les suspensions d'audience. J'espère cette fois que vous êtes en mesure de dire à la cour comment l'assassin a disparu.
Mais certainement, monsieur le président. D'ailleurs, pour vous mettre sur la bonne voie, je dirais qu'il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement de ce bout de cour dans lequel il était entré. Enfin, je veux dire, il était impossible sans que nous le voyions.
Soyez plus explicite, monsieur Rouletabille.
Monsieur l'avocat général, compte tenu de l'exiguïté du bout de cour, même si nous ne l'avions pas vu à cause de l'obscurité, nous l'aurions forcément touché. Imaginez un carré entouré de fossés de hautes grilles. C'est très simple. Ou l'assassin nous aurait marché dessus, ou c'est nous qui aurions marché sur lui.
On est encore en train de gagner du temps. C'est un fait unique en cour d'assises, un vrai régal.
Monsieur Rouletabille, je vous demanderai de bien vouloir mettre un terme à cette partie de cache-cache dans la nuit. Alors,
simple précision, monsieur le président. Je voulais que messieurs les jurés sachent que le bout de cour était quasi matériellement fermé par les fossés, les grilles et par nous-mêmes. À peu de choses près, la même situation que pour la chambre jaune.
Bon, merci de ces précisions. Et maintenant, au fait, monsieur Rouletabille, au fait. L'assassin est entré dans le bout de cour. Il est cerné. Il ne peut pas s'en aller. Vous arrivez. Et il a le temps de tuer quelqu'un et de se volatiliser. Et voilà presque une heure que la cour, l'avocat général et messieurs les jurés sont suspendus à vos lèvres. Avouez que c'est insensé. Dites-nous une bonne fois pourquoi vous ne l'avez pas trouvé. Le temps passe.
À qui le dites-vous, monsieur le président?
Mais à vous, monsieur Rouletabille.
Oui, non, je voulais dire, enfin...
Oui, vous avez raison, vous venez d'évoquer avec une légitime impatience le temps qui passe. Et moi, prisonnier de ce temps, je viens de consulter ma montre. Or, et j'en suis le premier désolé, je vous dirai pourquoi nous n'avons pas vu l'assassin. Ou plutôt, pourquoi nous n'avons pas cru voir l'assassin. Seulement, je ne pourrais vous le dire que dans 3h30.
Oh, monsieur ! Silence ! Silence ! Vous devrez évacuer la salle ! Vous confondez le prétoire et la scène du vaudeville, monsieur.
Mais non, monsieur le président, je sais que je n'ai pas le beau rôle, je sais que j'abuse de votre patience, que j'indispose le jury et monsieur l'avocat général, mais je vous supplie de croire en ma bonne foi. Il m'est absolument impossible de vous dévoiler quoi que ce soit de plus avant 6h30.
Monsieur le président,
silence, silence, parfait. Parfait. Je note que M. Rouletabille a pris la décision de mener les débats à ma place.
Oh non, mais non, M. le Président, non, pas ça, je n'oserai jamais.
Oh, je n'ai pas encore remarqué que cela vous gênait. Puisque vous menez les débats, il sera fait selon votre bon plaisir. Vous avez dit 6h30, ce sera 6h30.
Oh. Et comment, M.
La séance est suspendue.
Oh.
Ah, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Oui, c'est sûrement inutile de vous demander ce que vous êtes allé faire aux États-Unis. Hein. Ça fait partie de votre panoplie de farces et attrapes. Et vous allez me dire comme au président Recoux, attendez 6h30.
Mais non, mon cher Sinclair. Voilà une idée. À vous, je peux dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique. D'abord parce que vous êtes un ami.
Oh, Seigneur, j'entends des anges. Ben, je vous écoute, mon petit Joseph.
Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin.
Eh ben voilà. Eh ben voilà. Vous m'auriez rien dit, j'aurais pas eu l'air plus bête.
Sinclair, mon bon ami, quand nous avons quitté le château du Glandier, vous vous souvenez, pour la dernière fois, je connaissais les deux moitiés de l'assassin.
Les deux moitiés?
Oui, et seulement le nom d'une seule moitié. Ah. C'est pourquoi je vous dis, j'ai été obligé de faire ce voyage pour découvrir le nom de la deuxième moitié.
Eh ben, expliquez comme ça, mon cher Joseph. C'est limpide.
Voici Monsieur Larsan.
Oh, Rouletabille, j'apprécie. Oh, ce que vous faites est remarquable.
Mais j'en suis sûr. Avez-vous quelques minutes?
Mais bien sûr,
Alors, donnez-moi le bras. Mais voilà. J'ai l'intention de bavarder un moment avec vous.
Ah, voilà 6h30. C'est l'heure de la vérité.
Disons la vérité de Rouletabille.
Mon cher, je suis à peu près certain qu'il s'agit de la même. Vous avez vu la tête de notre client?
Il a le visage d'une très grande pâleur. Ses mains tremblent. C'est vrai qu'il joue sa tête.
Et que son sort dépend d'une maladresse de Rouletabille.
Oh, à cet égard, je ne serais pas inquiet. Et je ne sais si vous ressentez la même chose que moi, maître, mais... Darzac, bien que parfaitement innocent, a l'air de redouter que la vérité n'éclate.
Il a peur de la vérité. Ça s'est déjà vu.
Monsieur Rouletabille, à la base.
J'arrive. Heureux de vous revoir, monsieur Rouletabille.
Moi aussi, monsieur le président. Je suis à l'heure, monsieur le président.
N'ayant pas été cité régulièrement comme témoin, je ne vous ai pas fait prêter serment. Vos déclarations sont trop importantes pour que nous échappions à ce point de règlement. Vos noms, prénoms et qualités.
Rouletabille Joseph, journaliste à l'époque, 31 rue du Petit Pont.
Vous jurez de parler sans haine et sans contrainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Je pense qu'il n'est pas besoin de vous rappeler l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. Toute l'importance de ces paroles, pour vous, sinon pour d'autres.
Certainement, monsieur le président.
Voyons, nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui a servi de refuge à l'assassin, et nous nous promettions, vous nous promettiez de nous dire, après bien des tergiversations, comment l'assassin s'est enfui de cette cour et naturellement son nom. Monsieur Rouletabille, il est très exactement 18h35. Vous avez 5 minutes de retard et nous ne savons toujours rien.
Mais je suis prêt, monsieur le président. Je vous ai expliqué que nous étions tous dans ce bout de cour et qu'il était impossible de s'en échapper.
Eh bien,
c'est la vérité. Quand nous sommes arrivés dans le bout de cour, l'assassin y était avec nous.
Seulement, vous ne l'avez pas vu, monsieur Rouletabille. Et c'est la thèse que défend l'accusation.
Non, pardon, monsieur l'avocat général. Je n'ai jamais dit que nous ne l'avions pas vu. Nous l'avons au contraire vu, comme je vous vois.
Et vous ne l'avez pas arrêté?
Mais je dois dire que ça ne serait venu à l'idée de personne. Personne sauf de moi, car je savais qui était l'assassin. Seulement, je n'ai pas bougé.
Et vous osez le dire en plein tribunal?
Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite.
Vous voulez dire que...
Mais je veux dire qu'à ce moment précis, je n'avais d'autre preuve de sa culpabilité que le bon bout de ma raison. Oui, j'étais le seul à savoir que je regardais l'assassin. Tous les autres voyaient un homme, comme vous et moi, sans se douter qu'il était l'assassin. Pour l'accuser, il me fallait une preuve irréfutable. Une preuve qui contentera tout le monde, d'ailleurs. Cette preuve, j'ai prié la cour de bien vouloir l'attendre jusqu'à 6h30.
Bon, ben, l'heure est largement passée. Parlez, monsieur, dites-nous enfin quel est le nom de l'assassin.
Vous allez dire encore une fois que je laisse traîner ma déposition, monsieur le président, mais j'ai de bonnes raisons pour cela.
Silence. Monsieur Rouletabille, je vous préviens gentiment. Encore une plaisanterie de ce genre, et vous finissez la nuit au dépôt pour outrage à un magistrat. Compris ?
Oui, bien, monsieur le président.
Vous avez dit que l'assassin se trouvait avec vous dans le bout de cour. C'était le garde ?
Il était mort, monsieur le président.
Ah oui, c'est vrai. Bon, alors je pense que l'on peut écarter madame Mathieu, puisqu'elle est partie avant.
Oui, tout à fait d'accord, monsieur.
Je consulte mes notes, je vois le père Jacques, est-ce lui?
Non, monsieur le président.
Alors Bernier, le concierge?
Non, c'est pas lui.
Maître Sinclair?
Oh, sûrement.
Bah, il reste sœur Arthur Rantz, je ne le vois pas bien.
Non, en effet.
Pourtant, il ne reste plus que vous et sœur Arthur. Si ce n'est pas sœur Arthur, c'est vous.
Ni l'un ni l'autre.
Tonnerre de tonnerre, vous feriez sortir de ses gonds le magistrat le plus patient. J'ai énoncé les noms de tous ceux qui étaient dans le bout de cour et personne n'est l'assassin. Mais il n'y avait plus personne à ce moment-là.
C'est ce que nous avons toujours dit, monsieur le président.
Erreur, monsieur l'avocat général. Il y avait encore quelqu'un. Il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous. Mais il y avait quelqu'un au-dessus, penché à sa fenêtre.
Frédéric Larsan ?
Vous l'avez nommé, monsieur le président. Frédéric Larsan !
Ah, mon cher S, nous sommes en plein délire. Je me demande même si le jeune Rouletabille sait encore ce qu'il dit.
En tout cas, son numéro et sa démonstration tiennent du chef-d'œuvre. Qui, parmi vous, avocat, pourrait faire mieux?
Mais je n'en sais rien, je veux même pas me poser la question.
Maître.
Je vous écoute, monsieur Darzac.
C'est impossible, absolument impossible. Rouletabille est devenu fou.
Non, calmez-vous, monsieur Darzac, ne craignez rien. D'ailleurs, le procès n'est pas encore commencé.
Monsieur Rouletabille, tout au long de cette audience, vous avez dépassé les bornes un nombre de fois incalculable. Mais alors, l'apothéose, le final des finales, c'est l'accusation que vous proférez à l'égard de monsieur Frédéric Larsan. D'ailleurs, accuser un officier de police et l'un des plus brillants est une chose extrêmement grave. Et comme je ne suis pas encore tout à fait sourd, j'ai même entendu la réaction de monsieur Darzac, l'accusé lui-même vous traite de fou. Allons, monsieur, si vous n'êtes pas fou allié, après avoir prononcé de telles énormités, vous vous devez de fournir des preuves immédiates. Irréfutable.
Si je vous ai compris, monsieur le président, vous voulez des preuves. Mais vous savez, point n'est besoin de se mettre dans des états pareils. Je vais vous en donner une. Une preuve monumentale. Voulez-vous avoir la bonté de bien vouloir faire appeler à la barre Frédéric Larsan?
Ah, volontiers. La confrontation ne manquera pas de piquant, greffier. Rappelez, monsieur Larsan.
Monsieur Frédéric Larsan. Monsieur Frédéric Larsan!
Eh bien, allez voir dans la pièce réservée aux témoins, il ne peut pas être bien loin.
Monsieur Larsan! Monsieur Frédéric Larsan!
Alors?
Alors, il n'est plus là, monsieur le président. Les témoins l'ont vu quitter le palais de justice après la suspension de l'audience de 4 heures. Depuis, il n'a pas reparu. Vous vouliez une preuve, monsieur le président? La voilà.
Je serais curieux de savoir en quoi l'absence de Frédéric Larsan constitue une preuve monumentale.
Je répète, c'est irréfutable, monsieur le président. Il s'agit ni plus ni moins de la fuite de Frédéric Larsan. Je peux jurer qu'il ne reviendra pas. Vous ne le reverrez plus jamais. Et cette fuite ne représente-t-elle pas un aveu, messieurs?
Absolument. Silence! 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 Monsieur Rouletabille, votre attitude est déplacée et offense gravement la justice. Si, comme vous le prétendez, monsieur Frédéric Larsan est l'assassin, pourquoi n'avez-vous pas profité de ce qu'il était dans cette enceinte, à cette barre, pour l'accuser en face? Au moins, il aurait pu vous répondre.
Tiens, bien sûr. Seulement, quelle réponse plus nette, plus convaincante, plus explicite que celle-ci? Le silence. Monsieur Larsan ne répondra plus jamais. J'accuse Larsan d'être un assassin et il se sauve. Et vous trouvez que ce n'est pas une réponse, hein?
Non, monsieur Rouletabille, ce serait trop facile. Nous ne croyons pas, nous ne voulons pas croire que Frédéric Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. Comment se serait-il sauvé? Pourquoi? Il ne savait pas que vous alliez l'accuser.
Il le savait très bien. Il était parfaitement au courant, monsieur le président.
Qui le lui avait dit?
Moi, bien sûr.
Oh. Ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai, là on croit rêver. Monsieur Rouletabille, votre désir de prouver, et je le crains, votre besoin d'étonner sans cesse votre auditoire, vous conduisent à des effets qui n'ont cours que sur les scènes de nos théâtres. On ne joue pas ici l'auberge des Adrets, et vous n'êtes pas Frédéric Lemaître. Je vous demande de prendre conscience d'une chose, monsieur. Ou bien vous inventez des histoires insensées, et nous avons la faiblesse de les écouter, ou bien vous dites la vérité, Frédéric Larsan est l'assassin, et dans ce cas, vous êtes coupable de l'avoir prévenu, assurant ainsi sa fuite.
Oui, monsieur le président, je le reconnais, j'ai fait cela. Mais je ne suis pas la justice, moi. Je ne suis pas non plus la police. Je ne suis qu'un simple journaliste. Et il m'arrive de balayer devant ma porte, que les autres en fassent autant.
Qu'est-ce que vous dites?
Ce sont des propos injurieux envers toute la magistrature. Je demande qu'ils soient portés au procès-verbal de séance.
Monsieur le président, monsieur l'avocat général, Je vous prie d'accepter mes excuses. Voilà. Mais mon métier n'est pas de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je l'entends, c'est mon affaire. Préserver en notre genre de robe la société comme vous le pouvez, là est votre affaire. Ce n'est pas le rôle de Rouletabille d'apporter une tête au bourreau. Si vous êtes juste, monsieur le président, et vous l'êtes, vous trouverez que j'ai raison. J'avais calculé le temps nécessaire pour avertir Frédéric Larsan, lui permettre de sauter dans le train de Paris. Voilà.
Le train de Paris ?
Oui, monsieur le président, le train de 4h17. À 4h, suspension d'audience. Il lui reste 17 minutes pour filer à la gare. Non, monsieur Darzac, on ne retrouvera pas Frédéric Larsan.
Et pourquoi ?
Comptez une heure pour arriver à Paris, ça lui laisse 1h15 pour faire disparaître toutes les traces de son passage. C'est pourquoi je n'ai rien dit avant 6h30. Mais ne soyez pas inquiets, on ne retrouvera jamais Larsan. Il est beaucoup trop malin. Vous-même, vous l'avez poursuivi, monsieur Darzac. Il vous a toujours échappé.
Je ne disposais pas des moyens de la police.
Mais il a également toujours échappé à la police. À ma connaissance, je suis le seul jusqu'à maintenant à avoir eu le dessus. Disons qu'il est un peu moins fort que moi, mais tellement plus fort que les autres. Monsieur Darzac, cet homme prodigieusement habile s'est introduit il y a 4 ans à la Sûreté. Il y est devenu l'un des plus sûrs éléments de la police. Mais auparavant, cet homme était autrement célèbre sous un autre nom que vous connaissez hélas trop bien. Monsieur le Président, Frédéric Larsan s'appelle en réalité...
Eh bien, je vous écoute.
Il s'appelle Ballmeyer.
Ballmeyer ?
Mon Dieu, Ballmeyer. C'était donc Ballmeyer.
Vous ne croyez plus que je sois fou, monsieur Darzac.
L'audience est suspendue, elle reprendra dans un quart d'heure.
Qu'est-ce que c'est que ce Ballmeyer ?
Ah, vous êtes un rien trop jeune, mon cher confrère, pour savoir ce que c'est que ce Ballmeyer. Pour tout vous dire, Ballmeyer est l'escroc des escrocs, le gentleman de gentlemen, c'est le prestidigitateur du crime. En un mot, Ballmeyer est le nec plus ultra de la racaille.
Il a beau être le roi, c'est quand même le roi des filous. Un truand, un gangster... Un homme de la paix.
Ah, dites, trompez-vous. Ballmeyer a été reçu dans la meilleure société, inscrit dans les cercles les plus fermés. Il a volé l'honneur des familles et l'argent des puissants, et le tout avec une maestria jusqu'ici inégalée.
Bon, c'est un assez triste personnage, mais de là à tuer...
Ah, en certaines circonstances m'étant difficiles pour lui, il n'a pas hésité à faire le coup de feu, à jouer du couteau et de l'os de mouton.
Et vous croyez sincèrement, maître, que Larsan soit Ballmeyer ainsi que l'affirme le jeune Rouletabille ?
Vous penserez ce que vous voudrez. Je suis pratiquement sûr que Rouletabille vient par son intervention d'éviter une erreur judiciaire.
À ce point ?
Eh oui. Et le pire, voyez-vous, c'est qu'avec toute notre science criminelle, nos compétences, la juridiction, notre habitude des assises... Eh bien, nous n'aurions sans doute pas pu ou su empêcher cette erreur judiciaire. C'est pourquoi, mon cher confrère, je crois, ainsi que l'a affirmé Rouletabille, que Larsan et Ballmeyer ne sont qu'une seule et même personne.
La conviction est une chose, mais le reste...
Que voulez-vous dire ?
Qu'il est tout simplement incroyable que ce Ballmeyer n'ait jamais été, ne fût-ce qu'une fois, appréhendé par la police.
Mais trompez-vous, il a été arrêté il y a 4 ans, inculpé, et son procès allait être jugé quand ? Pendant son transfert au palais de justice, il a réussi l'évasion du siècle.
Comment cela ?
J'en ai honte. Pour les services de police, il a jeté du poivre dans la figure de ses gardiens et il a filé.
Et ça marche toujours, des trucs comme ça ?
En principe, non. Mais c'est tellement naïf, enfantin, que les gardes n'y ont pas cru.
Et psychologue, en plus. Dites-moi, maître, c'est un numéro tout ce qu'il y a de complet, votre Ballmeyer.
Et tenez-vous bien, mon cher S. Ce fameux jour de sa fuite, alors que les plus fins limiers de la police française étaient sur les dents et brouillaient toutes les pistes en tentant de le retrouver, savez-vous ce qu'il faisait ?
Non.
Il s'était fait la tête du chef de cabinet du ministre de l'Intérieur et assistait au Théâtre français à la reprise de l'illusion comique de notre bon Corneille.
Et vous voudriez qu'un petit journaliste, non dénué de talent, certes, et puis à lui seul démasquer ce redoutable bandit et présenter au monde étonné sa véritable identité.
L'audience est reprise. Monsieur Rouletabille,
monsieur le président,
la Cour souhaiterait éclaircir quelques points soulevés par vos déclarations.
Mais je suis à la disposition de la Cour, monsieur le président.
Voyons, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour.
En effet, monsieur le président.
J'admets avec vous, je veux bien admettre que, puisque Frédéric Larsan se trouvait penché à la fenêtre au-dessus de vous, il se trouvait à l'évidence dans le bout de cour. Seulement voilà. Pour pouvoir se pencher à sa fenêtre, il a quand même bien fallu qu'il le quitte, ce bout de cour.
Eh bien, c'est un peu plus juste, monsieur le président.
Et donc, Larsan s'est enfui. Alors, nous en revenons à la question initiale. Comment a-t-il fait ?
Si vous voulez bien vous souvenir, monsieur le président, j'ai dit que l'assassin, Frédéric Larsan, n'avait pu s'enfuir normalement.
Alors ?
Pardonnez ce truisme, il s'est donc enfui anormalement. Car vous le savez, j'ai dit que le bout de cour n'était que quasi fermé, alors que la chambre jaune, elle, l'était tout à fait. On pouvait par exemple grimper sur le mur, prendre appui sur les joints de scellement, chose impossible dans la chambre jaune. Se jeter ensuite sur la terrasse et de là... Pendant que nous étions penchés, ébahis sur le cadavre du garde, pénétrer de la terrasse dans la galerie par la façade qui donne juste au-dessus.
Oui, c'est faisable. Oui.
Ah ben, c'est très faisable, monsieur le président. Larsan n'avait plus qu'un seul pas à faire pour être dans sa chambre. Il lui suffisait d'ouvrir sa fenêtre et de nous parler. Ainsi, le tour était joué. Et nous, en même temps.
Il faut quand même une certaine souplesse.
Oh, quand on sait quel acrobate peut être Ballmeyer, soyez-en sûr, monsieur le président, ce fut un jeu d'enfant.
Je vous remercie, monsieur Rouletabille, mais vous n'ignorez pas qu'en justice, une supposition, même séduisante, reste une supposition.
J'avais prévu votre réaction, monsieur le président. C'est pourquoi, naturellement, j'ai la preuve de ce que j'avance.
C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Deray. Aujourd'hui, 22e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Maître Henri Robert, Pierre Olivier, S. Philippe Moreau, le président Recou, Claude Pieplu, le greffier Bernard Musson, et les voix de Michel Morano, Marek Achour, Gérard Thirion, Jacques Cornet, Cécile Amcy, Alain Kerval. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierre.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 30 août 1983. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et à suivre demain à la même heure.